bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Soyez les bienvenus, c'est la bande originale avec Léla Kadombo-Dadi.
Bonjour à tous.
Jérémy Crédville.
Bonjour.
Daniel. Hey. Hubert Algout.
Bonjour.
Tout à l'heure, Tanguy Passureau. Et nos invités, Laure Calamy et Eric Judor.
Bonsoir.
Bonsoir, Laure.
Bonsoir, Eric.
Soyez les bienvenus pour ce film Roulé Jeunesse qui sortira le 25 juillet, mai. Comme nous ne serons pas là le 25 juillet.
Comme 25 juillet, hein, pas 25 juillet, mai.
C'est deux mois différents.
Ouais, donc choisissons un mois. Nous avons choisi.
Il y a du mal avec les calendriers, les saisons.
Nous avons voulu vous inviter avant pour en parler, même un mois avant, et parler de ce film de Julien Guetta.
Pourquoi un mois avant vous nous invitez ?
Parce qu'on n'est pas là après.
Ah voilà. Parce que sinon après les gens ils oublient.
On s'arrête dans une semaine.
Donc un jour les gens auront oublié cette promo même si elle est formidable.
Tu penses ? On peut créer un buzz qui fasse que ça passe sur
ou
internet.
On peut annuler celle-là et la refaire vers mi-juillet.
Mais on n'est pas là.
Ça, on est bien.
Mais on n'est pas là.
J'ai pas de problème d'horaire.
Mais nous ne sommes pas là.
D'accord.
Ce film raconte l'histoire
d'un. Ça va être
hyper long.
Ça vous dérange ?
Non. Allez-y.
Parce que c'est le 25 juillet.
Oui. Voilà. Je vous ai dit que ça sortait le 25 juillet.
Mais pourquoi on fait ça ? Pourquoi on fait ça maintenant ? C'est un peu tôt.
Mais c'est exactement ce que je disais. Putain, mais c'est...
On s'en fout, l'émission n'est pas en direct, donc on peut dire
ce que ça va. J'ai eu peur.
Et donc, c'est l'histoire d'un dépanneur interprété par Eric Judor.
Ça sort quand ?
Fils...
Le 25 juillet, putain, mais si personne donne l'info aussi
Fils d'une dépanneuse, entre guillemets. Fils de sa maman, joué par Brigitte Rouen. Et dans ce monde-là du dépannage, vous allez vous retrouver à dépanner, entre guillemets, toute une famille. C'est-à-dire
là, on est en mai.
Vous allez découvrir. Vous ne voulez pas parler du film, ça ne me dérange pas.
On en parle là, parce que c'est le 25 juillet.
En fait, il dépanne une jeune femme sur la route. Voilà. Et le matin, le lendemain matin, il se réveille. Et là, elle a.
Non, mais attends, entre temps,
il passe la nuit avec elle.
Il s'est fait brancher, il passe la nuit ensemble.
Il passe la nuit avec elle. Et le lendemain matin, elle a disparu.
Elle disparaît.
Voilà. Elle a disparu et se retrouve en charge des enfants.
C'est ça.
C'est ça. Et pas que d'un, mais de trois enfants.
Pitch de départ qu'on connaît déjà. A priori, il y a eu des films comme ça. Il y a Demain tout commence, Omar Sy, non, c'est ça ?
Ouais.
Il y a eu pas mal de films comme ça, genre des quadras qui se retrouvent à cibler.
La seule différence, là, c'est qu'il est vraiment le père dans Demain tout commence.
Ah oui, c'est vrai.
Alors que là, vous découvrez les enfants au fur et à mesure.
Oui, bah, il est vraiment le père, mais il la découvre aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est le thème du quadra qui se retrouve
avec un enfant sur les bras.
Soudain, ouais, voilà. Ça a déjà été fait. Si on part direct en promo là.
Oui.
Ce que je trouve génial dans l'écriture de Julien Guetta, formidable Julien Guetta, c'est que ça tourne assez vite vers autre chose que juste de la comédie, ce que je faisais auparavant.
Alors il y a et une comédie et tout un truc, tout un pan psychanalytique avec vous aussi. Laure, vous êtes l'assistante sociale. Mais vous êtes aussi l'ex dépanneur.
Oui, une des ex. Oui, une nuit, oui.
Ah oui, justement.
Ça compte, des fois.
Oui.
Avec une coiffure improbable.
Mais... Voilà, une expérience capillaire. J'ai eu beaucoup de mal à regarder ça.
Mais qui aide au personnage. C'est elle ou c'est pas elle ? C'est elle.
Non, mais c'était risqué comme coupe. Mais ça te va, en fait.
Ouais.
Moi, enfin, je préfère même. Hein.
Alors là, je ne sais pas comment le prendre, par contre. Et donc, vous êtes l'assistante sociale qui allait à la fois régler des comptes avec, justement, cette aventure d'un soir que vous aviez vécu avec Eric Judor, cet ex, mais aussi devoir faire votre métier, de gérer l'abandon de ses enfants, de les mettre dans un pensionnat ou
un foyer.
De devoir respecter la règle qui est les parents ne sont pas là, il n'y a pas de tutelle, il n'y a pas de responsabilité, donc on est obligé de les protéger. Et il va y avoir ce côté un peu chaud et froid entre vous deux.
Oui, complètement.
Vous êtes très froid, très rigide, c'est le règlement,
et lui,
il est très humain, et avec, on ne peut pas laisser ça comme ça.
Comme moi dans la vie, en fait. C'est vraiment fou, comme toi dans...
Et en même temps, complètement irresponsable aussi.
Comme lui dans la vie.
C'est une sorte de... comme nous les hommes, je pense. Il y a un truc, il y a un côté... la paternité, c'est pas vraiment pour nous. On nous l'impose, en fait. Les femmes tombent enceintes. Et puis bon, après, bon gré mal gré, on finit par... Rares sont les hommes qui décident d'avoir des enfants, non ?
Mais non, mais enfin...
Non,
mais
non,
je vais complètement...
Je suis d'accord. Eric, faites attention, beaucoup de personnes vont interpréter ça comme étant une confidence personnelle sur votre...
Mais je pense que pour avoir parlé avec beaucoup d'hommes dans ma vie, je me suis rendu compte que quand même, on nous imposait pas la paternité. C'était un choix commun. Mais c'est rarement l'initiative au départ du mec, quoi.
Non, c'est la seule chose qu'on puisse dire, c'est qu'il y a peut-être un instinct maternel qui est plus fort que l'instinct paternel.
Leïla, intervenez. Il n'y a pas d'instinct maternel. Leïla, intervient tout de suite.
C'est fini l'instinct, Nagui. Je n'ai pas d'enfant. Je trouve qu'à l'inverse, une femme qui ne veut pas faire d'enfant, forcément, il y a une pression.
Je n'ai pas dit que toute la vie. Dès l'instant où une femme a envie d'avoir un enfant, il doit y avoir quelque chose de plus fort que chez un homme qui a envie d'avoir un enfant.
Parce que je ne crois pas. Moi, je crois qu'il y a des hommes qui ont très envie d'avoir des enfants.
Demandons à Jérémy, il va être papa.
Moi, je vais être papa en août, bien sûr.
Sérieux ? Oui, tu as très envie de
cet enfant. Tu as envie de cet enfant ?
Oui, tu as envie de cet enfant. Jusqu'à maintenant, oui, je ne l'ai pas encore vu.
Quand est-ce que tu vas le recevoir ?
En août, normalement.
Ah ouais, purée, moi en septembre.
Mais t'as 3 semaines. Oui, si. c'est pas.
Rassurez-moi. T'as 3 semaines de délai de réflexion.
Ouais. Ouais. Oui, tu peux le ramener. Hein, tu peux le ramener
sur internet.
Moi, j'hésite entre commandé. Ça et un VTT électrique. Donc,
pour le moment, j'ai pris un enfant électrique.
Du coup, on va voir quoi.
Il y a beaucoup.
C'est hyper compliqué.
Oui,
aujourd'hui.
Je ne comprends pas. Je ne sais pas où on est. S'il n'y a pas d'instinct maternel, justement, c'est aussi l'un des problèmes, c'est que la maman a abandonné les 3 enfants.
Elle n'y arrive pas. Oui.
Ouais. Donc, comme elle a abandonné ses 3 enfants, ils sont un peu
livrés à eux-mêmes.
Livrés à eux-mêmes, c'est exactement le mot, avec ce dépanneur qui, lui, d'un coup, se sent responsable. Alors qu'il n'y est strictement pour rien, il a du mal à laisser dans la nature.
Ben, on sent qu'il l'avait au fond de lui, cette envie de devenir mûr, devenir responsable. Et soudain, cet événement extraordinaire dans sa vie fait que il va apprendre et à être père, et à être responsable, et à devenir un homme de son âge, quoi.
Alors vous dites c'est pas que une comédie, ça reste quand même, il y a des plans extrêmement drôles, des vannes, un ping-pong. Je ne sais pas d'ailleurs quelle est la part d'improvisation qu'il y a pu avoir dans les dialogues entre vous et les enfants.
Il y en a eu un peu, mais Kurt, c'était très écrit. Julien Guetta est un scénariste avant d'être un réalisateur, c'est son premier film, donc il a écrit quelques très bons films, dont un autre film qui sort en ce moment qui s'appelle Joueur. Avec ta rime.
Ah oui,
oui bah, on reçoit demain.
Voilà. Il est bon le gars. Et du coup, il s'est très bien dialogué et il nous avait très bien écrit nos séquences. Rares étaient les improvisations. Et quand. Alors, moi, comme j'étais pas. C'est nouveau pour moi ce domaine du drame, puisqu'on tourne doucement vers le drame dans ce film. J'avais toujours envie de détendre le plateau ou de détendre la séquence en faisant des impros qui me dégageaient direct. donc, à la réponse, est-il eu des impros ? Oui, elles ont été virées.
Non, mais Kurt étant joué par Ilan de Brabant, il y a Tina jouée par Louise Babek, Déborah Lukumuena, Marie Kremer qui est celle justement que vous dépannez dans un premier temps et qui vous séduit.
L'expression.
Brigitte Rouen qui joue le rôle de votre maman, Laure Calamy, vous jouez donc, je rappelle, l'assistante sociale. Et vous, Eric Judor, je voulais aussi citer Philippe Duquesne qui est le pote dans l'entreprise de dépannage. Parce que là aussi, il y a un côté irresponsable. C'est ça qui est étonnant. Irresponsable au sein même de la boîte tenue par votre mère. Vous vous intéressez pas spécialement à ce qui s'y passe.
Pas carriériste, quoi.
Même s'il y a des GPS ou pas dans les dépanneuses. Ouais. Et de l'autre côté, vous apprenez la responsabilité au contact de ces enfants parce que vous êtes un adulte et parce que justement, aux enfants, vous dites mais n'oublie pas, t'es un gamin, quoi. Donc calme-toi et te comporte pas comme ça.
Il nous faut à tous, attention le mec rentre dans des adages, des instants forts dans nos vies pour soudain comprendre en fait ce que c'est d'être responsable. Moi personnellement, il m'a fallu un événement très fort, une mort dans mon entourage, pour soudain me dire waouh, il faut que je commence ma vie. Et ben pour le personnage que j'interprète dans le film, il a fallu soudain être confronté à 3 gamins pendant 24 heures. Pour comprendre qu'il fallait se prendre en main lui-même, quoi.
Ça s'appelle Rouler Jeunesse, ce film de Julien Guetta. Il sort le 25 juillet. Je ne sais pas si on l'a dit, mais.
Non, c'est dommage de faire l'émission si tôt.
C'est important. C'est important.
Pourquoi
on ne fait pas le 25?
C'est complètement con, les gars.
Parce qu'on n'est pas là.
Mais comment on le sait à l'avance? Est-ce qu'on ne peut pas se régler nos vacances histoire qu'on soit là?
Mais vous n'avez qu'à le sortir plus tôt, votre film aussi.
C'est ça aussi.
Vous êtes marrant, vous. Ah, alors on dit rien,
je suis pas responsable de tout et ne cassez pas votre voix.
Père Albert, oui. Avez-vous compris pourquoi il était important d'inviter Laure Calamy, Éric Judor?
Mais oui, je vous ai écouté.
Même aujourd'hui.
Oui, même aujourd'hui. J'espère, mon cher Nangui, que vous aurez l'honnêteté de vous souvenir de la conversation, pour le moins tendue, que vous avez eu tout à l'heure avec JNB juste avant l'émission. Un dialogue dont je peux rapporter...
Notre rédacteur en chef, tu veux dire.
Rédacteur en chef, velu en plus. Dont je peux rapporter la teneur au mot près. Dis-moi, JNB, tu peux me dire qui c'est qu'on reçoit aujourd'hui? Oh, maître, bien maître, oui maître. On reçoit les deux comédiens principaux du film Roulez Jeunesse. Les comédiens de Roulez Jeunesse, mais c'est impossible. Comment ça impossible, maître? Impossible parce qu'ils sont morts. Le film Roulez Jeunesse, réalisé par Jacques Van Steen en 1993, avait pour interprètes principaux Jean Carmet et Daniel Gélin. Et tous les deux sont morts. Mais, oh mon maître, il n'y a pas de mais, oh mon maître. Ici, on invite souvent des comédiens ennuyeux à mourir, des comédiens qui mériteraient de crever, mais des comédiens morts, ça, on n'a encore jamais eu. Remarque, c'est un nouveau concept. Oh maître, Roulez Jeunesse est le titre du nouveau et prochain film qui sortira le 25 juillet de Julien Guetta. Et nous recevons Éric Judor et Laure Calamy. Ah, les escrocs. Et encore, heureusement que ce sont eux qui viennent, parce que si j'avais eu affaire à Julien Guetta, je lui aurais dit à quel point je trouve ça honteux de piquer un titre qui ne lui appartient pas. Déjà qu'il a piqué son nom de famille à Bernard et son prénom à Courbet. Quelle paresse intellectuelle. Ça me donne envie de tout plaquer et de partir pour la Russie très bientôt.
C'est honteux, je vous demande d'arrêter, Père Albert.
Voilà. C'est ce que j'allais faire, cher... Cher Éric Judor, cher Laure Calamy, comment se prépare la bande originale? Pour ma part, l'histoire de ce garagiste qui se retrouve avec trois enfants n'est pas sans analogie avec mon apostolat auprès des jeunes en recherche. À ce sujet, je signale qu'avec le percolateur et l'abbé Jacques Facial, j'organise dans ma camionnette un stage prière, dépannage et mécanique auto, programme purge du gicleur, lubrification des joints de culasse, vous pouvez... et rangement de la boîte à glands. Bonne émission.
Merci Albert. La bande. Vos oreilles ont sifflé, Leïla, quand on vous a dit...
Excusez-moi, c'est quoi l'accent exactement de quelle région?
C'est un accent savoyard.
D'accord, on peut rater alors.
Lorsque Laure Calamy...
Il est bizarre dans cette
émission. Éric Judor, c'est pas... on fait signe d'origine, il y a un savoyard qui fait non, c'est pas savoyard.
Mais bien sûr,
c'est...
Ah voilà, j'explique. L'origine, le surnom du Père Albert était le vicaire savoyard, pour des raisons que je vous expliquerai un jour. Donc effectivement, ce n'est pas exactement l'accent savoyard, ayant moi-même... officier à Annecy pendant de nombreuses années. Effectivement, ce n'est pas savoyard.
Leïla, vos oreilles ont sifflé lorsqu'on vous annonçait la venue de Laure Calamy et Éric Judor.
Oui, et quand je pense à vous, Laure, je pense à vos choix de films, et notamment à celui-ci, c'est assez récent.
Oh putain. Qu'est-ce que tu fais?
Les gigots magiques. Je vois l'héroïne.
Tu te rappelles quand t'étais petite? Quand tu débarquais en pleine nuit dans ma chambre? Tu te souviens pas? Tu venais et puis tu mettais tes petits pieds comme ça entre mes cuisses. C'était trop mignon.
Tu sais, j'ai eu ma première fois très très tôt.
Hein? De quoi tu parles?
Ben non, mais du coup, je peux comprendre que t'en aies envie.
Ce sont des extraits de Ava, un film, un très beau film de Léa Missius, qui vous a valu d'être nommée au César cette année, le César de la meilleure actrice dans un second rôle. La même année, vous remportez, et c'est assez récent, le Molière de la comédienne dans un spectacle privé pour le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, mise en scène par Catherine Yégel. C'était au Théâtre de la Porte Saint-Martin et c'était merveilleux. Je pense que s'il y avait encore des 7 d'or, vous auriez été nommé ou récompensé pour 10%. Non mais c'est vrai, c'est hyper rare deux nominations comme ça, la même année. J'ai l'impression que le métier vous découvre alors que vous travaillez depuis de nombreuses années. Mais
c'est
là,
vrai, ça fait longtemps que vous travaillez dans le coin.
Mais là, ça y est, Laure, ça y est, ça, les nominations tombent. Comment est-ce qu'on on réagit à ça? On se dit que voilà, c'est la récompense d'un travail mené depuis un moment, ou alors c'est flippant?
Ah non, bah ça fait plaisir évidemment. Après, c'est très flippant. Moi, au César, j'étais soulagée de pas monter.
C'est vrai.
C'est très flippant.
Pourquoi donc? Parce qu'on se dit que c'est fini, on est mort après ou pas?
Oh non, quand même.
Je sais pas, je me pose la question.
Non, le trac, peut-être, l'émotion,
oui, voilà,
être submergé par l'émotion.
Oui, mais ça fait très plaisir. Après, voilà, c'est une cerise sur le gâteau. Après, c'est pas, c'est, bon, je le fais pas pour ça, mais voilà, enfin, c'est agréable. Non, mais bon, voilà.
Et Molière?
Bah, le Molière, oui,
non,
oui. Bah.
Là, vous êtes monté.
Le Molière, je connais, c'était ça la question.
Le Poquelin. Bah, ça fait plaisir aussi, le Poquelin, voilà. Mais après, non, mais en plus, comment dire, bon, maintenant, ils ont ouvert au théâtre public, mais quand même, les Molières, c'est avant tout, quand même, c'est des gens du théâtre privé. Mm-hmm. Et moi, d'ailleurs, c'est la première fois que j'allais dans le théâtre privé. Bon, là, c'était, j'ai beaucoup aimé faire ça.
C'est le paradoxe, en fait, c'est ça.
Oui,
c'est
oui, complètement. Bon, là, mais justement, ils ouvrent au théâtre public et je trouve ça formidable parce que du coup, ça va être un peu plus représentatif du théâtre dans son ensemble.
Ouais,
puisque
théâtres.
Moi, j'ai quand même fait toute ma carrière dans le théâtre public.
Ouais, ouais. Et vous,
non, mais
Eric,
c'est pas pour faire. Ouais. Mais vous voyez, ça, c'est quand même d'autres choses.
Mais est-ce qu'il peut y avoir un petit sentiment de juste au retour des choses, où finalement, ça valait la peine que je me batte autant pour être reconnu par mes pairs ou c'est...
Non, parce que moi, ce qui me rend heureuse, c'est de réaliser mon désir, quoi. De travailler avec des gens qui me passionnent, où je m'élève, où j'ai l'impression. Voilà. Après, évidemment que c'est génial. Je trouve ça
on
formidable.
Crache pas dans la soupe, c'est sûr.
Bah, bien sûr que non. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus.
C'est pas un aboutissement.
Non, c'est pas. Enfin, c'est pas une fin en soi, quoi.
Ça m'a pareil.
C'était
toi.
Quand
Oui, pardon, mais je l'ai pas eu.
C'était le 25.
J'étais persuadé de. Voilà. L'avoir eu.
Non, parce que là on est que le 18 juin, ouais, c'est pour ça qu'après
ça vient après.
Trop tôt.
Oui, donc
on va revenir après.
Donc vous Vincent, pardon Eric.
Oui.
Pardon.
Oh là là.
Pas de nomination au César au Molière
un
mais
manque de respect là.
Mais pardon.
Déjà l'émission un mois et demi avant.
Mais là mais la coupe.
On se trompe sur les prénoms.
Je vois pourquoi. C'est mieux comme ça.
On va me dire qui est Vincent parce que dans le film il s'appelle
Alex. C'est quelqu'un qui a eu un César.
C'est parce que j'étais venu avec
Ah Vincent Desienne, voilà, c'est pour sans doute pour ça.
C'était tellement mieux.
J'ai compris, et la blague.
En revanche, Eric, vous, cette année, c'est la couve des cahiers du cinéma. Pour
non,
Platane.
C'est pas cette année. Hein.
C'est l'année dernière ?
Non plus.
C'était quand ?
Testé, essayé une année.
Pour... Non, peu importe. En tout cas, peu importe, vous avez fait la coupe.
D'accord, donc on fait les fiches n'importe comment.
C'est ça.
On m'appelle Vincent, on n'a rien à foutre. Quoi. Okay. Bah, je vais prendre l'accent. Hein, parce qu'on n'en a rien à foutre de tout ici. Les accents, les dettes, tout n'importe quoi. C'était en 2013. Hein.
Ah voilà, c'était pas si loin.
Ah voilà, c'était bien cette décennie. Okay.
Ça reste au 20 ans. On reste c'est... au 21e
siècle. Ça, monsieur, sa précision.
Ça ne change pas grand-chose.
Un coma éthylique de 5
ans. Non, mais ce que je veux dire, non, pardon, 2013 ouais, et ouais. 2000, faire la couve des cahiers du cinéma.
Ouais.
Je vous ai entendu
c'était
récemment
pas les
dans.
Non,
si, c'est les cahiers du cinéma.
Ah, c'était les
ailes. C'était les poches. Et je vous ai entendu récemment dans une interview expliquant que voilà.
Laquelle interview ?
Vous voulez une date dans Stupéfiant ?
Non, voir si vous taffez un peu.
Ouais, minimum. Je vous suis beaucoup et.
Autant à cette table, je voulais que j'étais à tout le monde.
Elle, oui, par contre.
Il a encore l'heure de Moscou, l'autre.
Pardon. Alors, la question, du coup, c'est pas de question, finalement, en fait.
Alors,
c'est
ce match.
Une sorte de résumé.
Non, cette coupe était super.
Ah, bah ouais. Elle vous a marqué, en tout cas.
En tout cas, est-ce que ça vous a surpris
enchaîné, ouais.
Est-ce que ça vous a surpris que Platane. Non, les cahiers du cinéma, on peut se dire, c'est pour des films d'auteur, c'est. Il y a une espèce d'entre-soi un peu chic, branché. Est-ce que ça vous a surpris d'être, via Platane, honoré par les cahiers du cinéma ?
Je ne suis pas sûr que ce soit spécialement branché, les cahiers du cinéma. Je pense qu'il y a d'autres magazines qui sont un peu pointus comme ça, qui se la racontent un peu plus que les cahiers du cinéma.
C'était la première fois que vous étiez honoré par leur couverture.
Oui. Pour un comic, je pense que c'est assez rare.
Ah
et
ouais.
Pour un programme télé, surtout, je pense que c'était une première. Et moi, oui, ça me fait plaisir.
Et puis c'est votre bébé, Platane.
Moi,
c'est
ça pas me que... fait super. Non, voilà. Je te regarde parce que toi, t'avais l'air de dire que.
Ah non, moi, ça me fait plaisir.
Mais que ça te fait pas plus que ça, quoi. C'est tant que tu travailles dans le truc. Moi, j'avais vraiment l'impression, enfin, j'ai toujours l'impression d'ailleurs, de travailler à côté de la plaque. C'est-à-dire de faire des trucs que personne capte, que personne aime spécialement. Et du coup, soudain, quand il y a les cahiers, alors que quand je fais les trucs, je suis persuadé d'être le meilleur du monde, hein.
Bien sûr.
De faire le truc le plus drôle
sinon,
du monde.
Vous le feriez
et
pas.
D'être le plus fort.
Bah, évidemment.
Et soudain, quand ça sort, je me rends compte que non, visiblement, vu l'accueil du public. Et quand les cahiers du cinéma, qui n'ont justement rien à foutre d'être branchés ou en pointe ou tout ça, qui font juste un truc, j'ai l'impression, moi en tout cas, pour les lire régulièrement, qui sont plutôt sincères, quand ils font une couve sur mon travail, je me dis, waouh, putain, il y en a qui l'ont vu un peu le taf. Contrairement
mais
à d'autres qui...
Est-ce que c'est pas le propos justement de se dire au moment où on crée, où on, on compose un rôle, où on écrit, où on produit quelque chose, de se dire là, on donne tout et on, oui, on est géniaux, c'est formidable, on est dans la création. Toujours... Non mais l'état que l'on est quand on est dans une création...
Pas toujours.
Pas toujours
Non, je pense que on a démarré notre carrière avec Ramzy en faisant parfois des choses sur commande ou pour des envies de voyage ou des mauvaises raisons, quoi.
Ouais.
Et oui,
et qui ont quand même été salués du succès, vous voulez dire, malgré les mauvaises raisons initiales.
C'est bien le problème.
D'accord.
Et du coup,
c'est-à-dire que c'est lourd à traîner, ça.
Ah, on a un sac à dos avec des ouais. avec des du caca dedans, ouais, je pense. Ouais.
Est-ce que à l'inverse, il vous manque quoi alors, hein, qu'il y ait quelque chose que vous ayez fait par totale conviction, avec une reconnaissance aussi publique aussi grande que la conviction que vous aviez en la créant?
Ça fait une petite dizaine d'années. Que depuis en gros qu'on a tourné avec Quentin Dupieux et ensuite on a enchaîné chacun. Ramzy fait des formidables films d'auteur, je trouve. Les vents contraires, il est incroyable dedans. Moi je tente aussi une carrière de showrunner de série, donc avec Platane depuis 2010. On fait le maximum de ce que on sait faire en espérant qu'on touchera un maximum de gens. Ce que je comprends aujourd'hui, moi, avec mon expérience...
Avec une vraie sincérité, vous le direz, pas de calcul.
Ah voilà. Ce que je comprends aujourd'hui avec mon expérience, c'est que quand on est très précis et qu'on sait exactement ce qu'on veut dans la comédie, c'est quasi impossible de toucher le grand public. À moins d'être Brad Bird, pour faire Les Indestructibles 2, que j'ai lu hier, qui est fou, qui fait rire tout le monde, les enfants, les grands, les gens qui bossent dans ce métier, tout. Enfin, c'est incroyable. Je trouve cet exercice est quasi impossible. Quand on a une idée précise, je vois pas comment moi, qui travaille dans la vanne tous les jours, vais écrire un truc qui me fait rire moi et qui va faire rire ma mère qui a 75 ans et mon fils de 4 ans. Pour moi, c'est impossible. C'est quasiment impossible. Et rare
cet exercice d'une double lecture.
Sont les exemples.
Mais, non, mais il y en a. Mais Shrek, par exemple, il y avait c'est double lecture aussi. Non, mais ça.
Mais est-ce
ça
que c'est souhaitable? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce qu'on fait pas des films pour des cibles et basta?
Non, on fait pas. Enfin, alors, je pense que c'est une erreur d'écrire quelque chose. Pour un type public. De public.
Ouais, ouais.
Faut écrire quelque chose qui aujourd'hui. Nous fait rire, nous. Ouais. Et ensuite, on prie. On espère que
ça rencontre
que
un
ça
public.
Et que les gens vont se marrer.
Vous avez ce même questionnement, Laure, dans votre travail, de savoir est-ce que ça va plaire? Est-ce que ce travail va être vu, reconnu?
Ah, bah oui, j'ai envie que ce soit vu. Ouais, oui, bien sûr. Bien sûr, mais. Non mais enfin pardon, je reviens.
Cette angoisse de la création et de se dire au moment où on fait quelque chose, où on apporte une vanne ou une écriture.
C'est au moment où on le montre, hein. Quand on le fait,
oui,
moi quand
ça,
on le fait, je suis persuadé que tout le monde va se marrer. C'est juste après que je fais le constat que ah non putain, ça fait marrer moi et mon frère. C'est là que c'est chiant, quoi. C'est là le problème, en fait.
Non, enfin, mais si c'était sincère.
Oui, mais ça reste un problème. Il faut nourrir ses gosses, hein, derrière, quand même.
Bah ouais,
faut que ça marche un peu, quoi.
Moi, je trouve plus problématique ceux qui ne sont pas sincères dans leur démarche et qui font tout pour plaire, pour servir.
C'est la majorité.
Bah là, ça se voit. Pour servir. Ça se voit vite et c'est moche.
Voilà, pour servir ce que la majorité veut et voilà et attend. Ça, c'est un peu plus attendu.
J'ai l'impression qu'à partir du moment où c'est extrêmement personnel et donc. La singularité de chacun. Enfin, il y a forcément quelque. Alors après, ce sera peut-être pas un très grand nombre, mais j'ai l'impression que forcément, il y aura un écho quelque part,
dans
quelques personnes.
La sincérité suffit.
Et je pense que, effectivement, si on commence à penser qu'on veut plaire à 50 millions de personnes, ça, c'est forcément. Non, donc du coup, c'est à partir de soi. Et si je peux juste redire, parce que si j'ai donné l'impression de cracher dans la soupe, enfin, je veux dire, moi, ça me fait extrêmement plaisir.
Non, mais ça
me fait extrêmement plaisir.
C'est un peu choquant.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que.
La profession s'en souviendra.
Les gens qui gueulent, ouais.
Non, mais
pour qui elle se prend?
C'est que c'est angoissant.
C'est un César, la meuf. Elle crie dans la
chine. C'est un Molière.
Bon, bref.
Ah ouais? Ouais, je viens de recevoir une correction de cette lettre. Ouais, dis donc, j'avais dit qu'elle avait un César, qu'il y a un Molière.
C'est Coluche, apparemment, qui a écrit.
Et Vincent Judor, il m'emmerde.
Ça s'appelle Rouler Jeunesse, et je trouve d'ailleurs que Rouler Jeunesse répond à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il peut y avoir la lecture dramatique, émotionnelle d'adulte, et aussi l'espèce de road trip d'enfant qui peut plaire à tous les publics. Il n'y a pas de scène qui peut être choquante au point de dire c'est pas un film familial, et il n'y a pas de scène qui sont trop attendues pour dire les adultes vont s'ennuyer dans le film, pour répondre à l'attente que vous fixiez tout à l'heure. Éric Judor et Laure, oui, on verra ça le 25 juillet, puisque ça sortira le 25 juillet. Avec Laure Calamy, Éric Judor, voici. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi, déjà?
Je sais pas.
On est 18 juin.
Il va avoir un enfant.
Ah ouais. Ah ouais, ok. Jérémy Crenville.
Merci. Allez, champion. Salut les gens qui travaillent dur pour devenir quelqu'un, et salut Nagui. Message aux personnes munies d'enfants à proximité. Éloignez-les de la radio quelques minutes. Je répète, éloignez les enfants de la radio quelques minutes. Sinon, le médiateur de Radio France va encore devoir répondre à des plaintes et il aimerait bien partir en vacances en août.
Pourquoi tu as dit à Zorreur?
Il y a des chances. Non, parce que là, il vient de terminer de répondre aux réclamations du 22 mars quand j'avais remplacé Guillermo voilà. Ouais, vous savez, ce belge bègue.
Je sais jamais comment il s'appelle. Ernesto?
Oui, voilà. Ouais. Appelons-le Ernesto. Alors, je m'étais permis quelques alexandrins sur une partie du corps qui n'est pas très développée chez Morin. Bref. À l'heure où je vous parle de pénis, cheveux, petit voilà. Soit-il, voilà. Ça fait 3h30 que des centaines de milliers de lycéens planchent sur une épreuve de philosophie. Et comme le disait Platon, c'est pas en me citant que tu vas impressionner ton correcteur. Il y a plein de mythes autour de l'épreuve de philo, hein, notamment le fameux sujet « Qu'est-ce que l'audace ?» Le mec répond « L'audace, c'est ça, point, 20 sur 20. » Ou 20 sur 20, comme on dit chez moi. Un autre mythe serait que les profs de philo noteraient au pif. Et celui-là, j'y crois plus. Parce que les mecs, ils ont quand même autre chose à foutre que de lire du torchis sur des copies doubles. Un lycéen en 4 heures, ça peut quand même écrire beaucoup de conneries. Hein.
L'existence ne se meut-elle que de désir. Toute façon, je me suis pas inscrit sur Parcoursup, je nique le système, anarchie. Tu vois, bref.
Il y a aussi un mythe qui dit que la philosophie sert à quelque chose. Moi, mon prof de philo faisait tellement de la masturbation intellectuelle que parfois, il mouchait du sperme. Et là, vous commencez à comprendre pourquoi j'avais demandé d'éloigner vos chiards. La seule fois où j'ai eu une bonne note en philo, c'est quand je jouais aux mots à placer. C'est hyper bidon, en fait, avec un pote, tu fais une liste de 10 mots et tu dois tous les placer dans ta copie de philo de façon tondeuse. Mais oublions la philosophie et oublions le bac qui est aussi utile que de l'eau chez Leïla qui n'a de sobre que la tenue. Je vais vous parler. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur et dont le rédacteur en chef de l'émission ne cesse de me parler, The Vulva Project, le projet Vulve. À une lettre près, ça fait valve. Du coup, à une lettre près, tu peux souffler dedans, c'est rigolo. Je rappelle que les parents ont été prévenus. Sur son compte Instagram baptisé The Vulva Gallery, j'ai un accent écossais, une artiste hollandaise dessine des toches. Et à l'image de la chanson Le Zizi, il y en a de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les pilosités. J'ai même cru reconnaître une collègue dont je tairai le nom. Je peux juste dire qu'elle est suisse, qu'elle jouera au Spotlight à Lille le 22 et 23 juin et qu'elle a parlé de la relation à son vagin la semaine dernière à ce micro.
Laisse Marina tranquille.
Un micro qui n'a visiblement pas été nettoyé depuis. Bref, l'artiste Hilde Atalanta réalise ses dessins pour réconcilier les femmes avec leur vulve. Et on le sait tous, se réconcilier avec une femme, c'est compliqué. Parce qu'il faut se rappeler pour quelle connerie est-ce qu'elle fait la gueule. Et ça doit être encore plus compliqué de réconcilier les femmes avec leur vulve, puisque les vulves sont incapables de s'excuser ou d'offrir un bouquet de fleurs. Là, j'en profite pour embrasser bien fort le médiateur de Radio France. Big up, mec, c'est maintenant que ça se complique. À la rigueur, une vulve, ça peut faire ces sons-là.
Oh non,
mais, si, mais ça ne peut pas articuler correctement le mot « pardon ». Par contre, ça peut projeter des balles de ping-pong à plusieurs mètres, surtout si la vulve est thaïlandaise. Quand j'ai regardé les dessins de Hilde Atalanta, j'ai tout de suite pensé à la campagne de pub sur les fruits et légumes moches. C'est pas parce qu'un fruit est moche qu'il n'est pas comestible. Et non, mais t'inquiète, je ne ferai aucun parallèle avec les très jolis abricots qui ont parfois un goût douteux. Non, pas de parallèle. En fait, l'artiste a voulu dessiner cet organe féminin dans toute sa diversité suite à la recrudescence du nombre de chirurgies des lèvres chez les femmes. Non mais ça et le blanchiment d'anus, je ne comprends pas. Non mais mesdames, à la rigueur, si vous voulez vous faire blanchir quelque chose, choisissez les dents. En tout cas, je suis certain qu'on n'est jamais aussi beau que quand on n'en a rien à foutre, alors je soutiens le projet Vulve, venant du Nord, je suis très moule, et en y repensant, je me dis même que j'ai peut-être loupé la création d'un projet similaire pour les hommes, parce qu'il y a 15 ans, je dessinais déjà des bites sur mes copies de philo. C'est bon les enfants, vous pouvez revenir.
Ah t'as fini, merci, j'ai la bande originale, Nagui.
sur France Inter.
Mais il y avait une publicité qui avait été faite comme ça par un photographe, c'était pour Benetton, si j'ai pas de mémoire, où il y avait une pleine page dans Libé, une double page.
Ouais, c'était Benetton. Ici, ouais.
Avec, c'était ça, non? Mais je crois qu'il y avait les deux. Il y avait une, ils avaient fait une fois les garçons, une fois une fille. Ouais, je crois. Me semble-t-il. Mais il y a bien longtemps de tout cela. Le film sortira le 25 juillet. Ça s'appelle Rouler Jeunesse. Et dans ce film, Éric Judor et Laure Calamy y interprètent donc à la fois un dépanneur pour Éric Judor, qui, dans tous les sens du terme, va dépanner. D'ailleurs, je crois que la vanne est faite dans le film. Moi, je veux pas spécialement être le papa. Je dépanne cette famille abandonnée de ses trois enfants. La maman n'étant plus, on ne sait pas où elle est. Non, mais elle est faite. Donc il faut l'assumer. et Laure Calamy de l'autre côté se retrouve avec à la fois la volonté, enfin, je sais pas, une petite envie de se venger de celui qui a été juste l'amour d'un soir, et puis de faire son travail jusqu'au bout, de protéger les enfants, parce que c'est là aussi votre moteur. Il y a de l'humour, il y a aussi un road movie, parce que il y a la quête de la maman, il y a aussi une enquête, retrouver la maman qui a disparu, en essayant de retrouver celle qui avait été l'amour d'un soir, même si l'amour n'a pas été consommé assez vite, écroulé assez vite, endormi.
Si je peux te dire un truc sur les comédiens, ouais. Donc Laure, elle amène une caution, un truc ultra sincère, et quand elle m'engueule, on a vraiment l'impression que c'est sa mère qui t'engueule. C'est vraiment, elle est la conscience du public, elle est
Brigitte,
le truc.
Brigitte Roy, vous voulez dire?
Droit.
Non, parce que votre mère.
Oui, l'autre, elle est castratrice et tout ça, mais elle, c'est la conscience du public, c'est la droiture et tout ça. Et doucement, elle vire vers quelque chose d'un petit peu tendre vis-à-vis de moi et de la mission que nous avons. Elle est formidable et elle a eu un César pour le prouver. Je déconne, Molière. Mais il y a deux enfants. J'ai tourné quelques fois avec des enfants. Je sais à quel point ça peut être compliqué.
Ilan de Brabant et
Louise. J'ai tourné avec Ramzy très très longtemps. et là, Ilan et Louise. J'ai vraiment, à un moment donné, cru qu'on avait des robots, quoi, tellement ils étaient puissants, quoi. Ouais. Et on tournait des 8-10 heures par jour. Et le gamin, là, le petit, est fou. C'est fou le niveau qu'il a, la sincérité qu'il a. Et l'adolescente, la Louise, il y a une scène un peu dure qu'on joue ensemble, où on est ému l'un l'autre. Et on s'est tombé dans les bras. Enfin, elle a un truc, c'est fou ce qu'ils ont les deux, là. Donc rien que pour les deux gamins... Pour les gens qui m'aiment pas, je veux dire, il y a des enfants qui jouent super bien dedans. Et ça,
c'est une bonne raison.
Je pense que c'est une des raisons.
Des raisons.
Et le César.
On va parler dans quelques instants et on va recevoir un psy justement pour.
Merde.
Ben si. Vite. Il va tout analyser, il va tout comprendre.
Mais l'annonce, à mon avis, fait pas rêver les auditeurs.
La psy.
Vas-y, remets de la musique.
Il est et psychanalyste et psychologue.
D'accord. Ah bah oui alors.
Et
oui.
Il va notamment s'intéresser il a vu le film et il va définir la relation que vous avez aussi avec votre propre maman dans le film, je vous rassure. Ah oui. Et avec tout ce qui se passe dans le film. On va en parler avec lui dans quelques instants, mais d'abord en musique, ce que en 98 vous écoutiez, Laure Calamy, vous écoutiez.
Tel qu'il est, il me plaît, il me plaît.
1846.
C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un
bassin,
mais je l'aime.
Il est bancal.
Frêle. Vous expliquer quelles images vous avez en écoutant Frêle, là, maintenant? Pourquoi vous choisissez Frêle pour 98?
Bah, Frêle, parce que d'abord, j'avais fait un spectacle au conservatoire avec mes potes. On avait fait une sorte de cabaret où il y avait, c'était un peu fourre-tout et il n'y avait pas de metteur en scène. On avait vraiment fait, c'est ma première un peu création collective. Et donc, je faisais un truc avec cette chanson de Frêle, pour laquelle j'ai une passion. Voilà, parce que c'est un peu un mélange de, je sais pas, Amy Winehouse avec Renaud, quoi.
Amy Winehouse, là-dedans?
Mais avec Renaud.
Bien sûr. Non, mais je veux dire, pour
ça
l'époque.
Ça raconte des histoires, en tout cas.
Ouais. Ouais. Et puis, puis sur sa vie. Enfin, je veux dire, elle a fini, très mal. Elle avait chanté, je veux de la coco. Elle prenait des tas de drogues, etc. Et puis, elle a eu une vie,
Déjantée
complètement, quoi.
Piaf l'admirait beaucoup.
Piaf l'admirait beaucoup.
Et puis c'est un peu, c'est un peu Paris, l'état de Paris, l'esprit parisien, puisqu'en en 98, vous venez, vous quittez la province, vous le dites dans les interviews, j'aime bien ce côté, je quitte ma province parce que je monte à Paris pour la rue Blanche, puis le conservatoire, vous l'avez évoqué, le conservatoire pendant 3 ans, et on va retrouver 2 noms très très importants. C'est Daniel Mesguich et puis une certaine Catherine Yeagel.
Bah oui,
déjà, déjà exactement. Là, déjà là, vous êtes son élève.
Exactement, c'est là qu'on s'est rencontrés. J'ai voulu voir si j'étais solide parce qu'elle avait la réputation d'être très, très dure, surtout avec les filles.
Ah, tu vas te tester en fait.
Voilà.
Elle va se confronter. Et alors, c'est la relation avec Catherine Yeagel.
C'est génial. Et puis en plus, moi, ce que j'aimais, c'est qu'on pouvait vraiment tout se permettre. On pouvait jouer des rôles d'hommes, on pouvait faire tout ce qu'on voulait, quoi. Tout était, moi j'étais impressionnée, il y avait à disposition des costumes, un technicien qui était là pour nous faire la lumière, pour faire nos scènes et les présenter aux profs. Enfin, moi je trouvais ça incroyable, quoi. J'étais, ah, putain, c'est des moyens dingues, quoi, le conservatoire. Et puis après, c'était rencontrer aussi des gens de ma génération, ce qui s'est fait. En fait, moi c'est surtout ça que j'ai fait après qui m'a plu, c'est avec Vincent
Macaigne,
avec il y en a plein avec qui j'ai travaillé, ma pote Léna Bréban, avec qui j'ai fait du jeune public, Thomas Blanchard, enfin il y en a plein, quoi, avec qui c'est mes amis, et ça a été des rencontres importantes, quoi.
Oui, vous expliquez l'intérêt de l'école,
construit,
comme
quoi,
ça
là-dedans. Les profs, c'est c'était super. Puis j'ai rencontré Olivier Py aussi, j'ai fait son atelier, ça a été très très important pour moi, ça a été quelque chose de... Enfin voilà.
Non mais vous le racontez bien dans pas mal d'interviews, ce côté, c'est un vivier aussi, c'est une façon de se rencontrer, et ensuite, si on n'a pas de boulot tout de suite, de créer des projets, des collectifs, continuer à avancer, montrer son travail, montrer qu'on sait jouer et pratiquer, en fait, pas attendre.
Non. Mais ça va, j'ai plutôt travaillé assez vite, mais cas, ça permettait ça aussi, ce fameux régime spécial intermittent. C'est que, du coup, de pouvoir, quand d'un coup on avait un mois, comme on avait on avait nos heures, on pouvait se permettre, on s'est barré avec Jean-François Auguste, on a été, on a répété vraiment un spectacle dans un garage, quoi, mais vraiment, on l'a répété, on était dans la poussière à faire des impros, des trucs, et après on l'a tourné dans des festivals à Strasbourg, enfin je sais pas, dans plein d'endroits, des festivals vachement bien, le Maillon, etc. Ouais. Et voilà, et c'est comme ça aussi, je pense que ça envoyait des signaux, moi, aux gens de ma génération, que c'est comme ça que j'aime bien travailler, et c'est comme ça qu'on se rencontre aussi, quoi, et du coup qu'on construit son désir et ce qu'on a envie de faire, et voilà.
En 98, Eric Judor, vous écoutiez.
DMS. Il y a du Edith Piaf dedans.
C'est du Edith Dédit.
Il y a du Renaud.
Il y a de la coke en tout cas.
Et 98.
Énorme. Il faut juste parler quand même d'Emix. Énorme succès. C'est l'un des plus gros rappeurs. Je crois qu'il a eu des
qui est grand-père aujourd'hui.
Non.
Sans blague. Si, il est grand-père et il vient de repartir en tôle parce qu'il a 9 ou 11 enfants avec autant de femmes différentes et qui ne paye pas ses pensions. Et du coup,
il a de quoi pourtant.
Il va en tôle, il a plus d'argent, il a tout claqué, du coup là maintenant il...
Après avoir vendu près de 100 millions d'albums,
il a plus rien. Ouais, ruiné.
Ça part vite, hein.
Il fait des allers-retours en prison.
Et puis c'est un comédien aussi, il a joué dans plein de films et séries télé.
Il est extrêmement charismatique, enfin, sa voix, sa façon de rapper, il y avait un truc ultra violent qui représentait le ghetto et la souffrance afro-américaine, la lutte... mais en tout cas la résistance à l'oppression des flics, en fait, États-Unis. C'était pas loin après Rodney King et toutes ces violences à Los Angeles, les répressions policières qui sont d'actualité encore aujourd'hui.
Pourquoi ce rap américain vous parle plus qu'un rap français à ce moment-là?
Parce qu'à ce moment-là, il y avait...
NTM
NTM, il y avait Lionel D, il y avait des bons rappeurs, mais j'étais de toute manière fasciné par les anglo-saxons. Ma génération, on regardait
culture
l'Amérique,
Ricaine,
on regardait l'Amérique, ça nous faisait rêver, on était bercé aux séries américaines et donc à la musique américaine, mais j'écoutais aussi les musiques californiennes, douces.
En 98, Leïla.
C'est H, la sitcom H sur Canal. Vous, bien sûr, Jamel Debbouze, Ramzy, vous écrivez.
Benabar.
Cette série, il fait partie de l'équipe.
Je l'ai créée avec Xavier Mathieu et Kader Aoud. Et ensuite, donc on a écrit les premiers épisodes, on a écrit la Bible, les personnages, les situations dans lesquelles ils devraient se trouver, les décors principaux, et ensuite on l'a filé à Eric Laven, et notamment Benabar, ouais, qui a écrit parmi les meilleurs épisodes. Ouais, ouais.
C'est carrément.
Excellent auteur.
C'est vrai.
Ah ouais, ouais. C'était un duo Nicolini-Proust. C'était les meilleurs. Quand on recevait les scénarios de eux, il y avait très peu. On avait une journée de lecture.
Nicolini étant le vrai nom de Benabar. De...
Ouais. Et moi, du coup, vous pouvez le. Ouais.
Vous pouvez l'embêter.
Bruno Nicolini, 16 rue non. des Acacias.
Un nom.
Voilà, voilà, mais bon, je ne peux pas en dire plus.
Non, interphone oh, B.
B3216.
Le troisième étage. Ouais. Et donc, en tout cas, quand on recevait les scénarios au début de semaine signés de ce duo, on savait qu'on avait très peu de choses à changer. On aimait beaucoup improviser sur le texte, mais quand on recevait cela, il n'y avait quasiment rien à toucher.
Et l'idée initiale, elle vient d'où ? À quel moment ? Qui vous vous réunissez et vous
avez Jean-Pierre Ramsay, le producteur de la série, qui reçoit un appel de Canal. Canal demande à toutes les boîtes de production de France de proposer un projet. Ouais. Ils veulent passer à la série live, c'est-à-dire une série tournée en public.
La sitcom façon Friends.
Et donc voilà. Et donc Jean-Pierre Ramsay, je crois, contacte Kader Aoun. Kader Aoun m'appelle et Xavier Mathieu. Et tous les trois, on écrit ce projet.
Et ça a duré combien d'années ?
Pas longtemps, 4 ans. Parce on a fait 4 saisons.
Marrant, extérieurement, on a l'impression que ça a duré, mais 15 ans tellement.
Mais non, on redive de malade.
Ouais, c'est génial.
Mais ça s'est arrêté trop tôt. Ça s'est arrêté trop tôt.
C'est pas mal, hein, de faire. On en a fait 71 des épisodes, hein. C'est quand même beaucoup. Et c'est bien de le laisser, là, comme ça, dans son.
Oui, mais comme son... avec le retour de Burger Quiz, ça vous amuserait aussi de refaire H?
Non.
Merci. 2003, 2004.
Je suis passé à Platane, en fait.
Ouais.
Ça tue un peu H. C'est-à-dire, H, ça représente vraiment un style de comédie d'une époque. Refaire H aujourd'hui, ça ferait vieux con.
Ouais.
Ou mec qui a pas d'idée.
Mais continuer Platane,
deux,
oui.
Ou les deux.
Ouais.
Et continuer Platane, oui. Il y en a des questions.
Ah, bah, je suis en train d'écrire la saison 3. Ouais,
voilà, va arrêter. Très bien. En 2003, justement, vous écoutiez Eric.
Fabuleux, Monsieur Oiseau.
Ça s'appelle Flatbeat.
Bah oui, Quentin Dupieux.
Ouais.
C'est Quentin Dupieux. On allait tourner Steak. C'est le film de la Renaissance pour nous. Enterrer le caca le plus loin possible et repartir au travail, la fleur au fusil. Ouais, ouais, bah ouais, c'est le. On avait démarré le métier avec Ramzy en se disant il faut qu'on fasse des choses qui ne ressemblent à rien ni personne, des choses qui nous font rire nous. Donc on a démarré par La Tour Montparnasse, par notre spectacle, par H. T'es très fier. Et puis après on a commencé à faire Double Zéro, les Dalton. Et là, wow, on s'est perdu quoi. Et du coup, il fallait qu'on revienne à notre... Quentin Dupieux ne nous a pas fait naître, mais nous a fait renaître en fait, nous a lavé.
Et pourquoi on se perd ? Moi ça m'intéresse. Qu'est-ce qui fait que...
Tout est facile, voyager, tourner des films avec des moyens, peu importe le propos, t'as 30 ans, tu kiffes quoi.
Ouais, vous avez pas l'inquiétude à ce moment-là, il y a personne qui vous entoure pour vous dire voilà, ça se construit sur le long terme, et à un moment tous mes choix, je vais les payer cher.
Mais parce qu'il n'y a pas d'envie de carrière spécialement.
Ouais,
et pas de garde-fou, pas de gens qui canalisent votre énergie.
Mais si, mais
les agents,
on est juste en train de kiffer quoi. Ouais. C'est-à-dire que en gros, je ne connais pas de carrière parfaite.
Non.
Et chaque carrière est unique de toute manière, et chaque carrière correspond aussi au moment que vit l'artiste dans sa vie. Là, à ce moment-là, on avait juste envie de kiffer. On n'avait pas spécialement de projection d'avenir, ni de velléité d'artiste en particulier, quoi. On avait un fond de créateur. C'est pour ça qu'on a démarré avec notre spectacle qui est particulier, avec H qui est particulier et La Tour Montparnasse. Et ensuite, on s'est un peu perdu.
Qui repose quoi ? Beaucoup sur l'absurde, justement. C'est
l'absurde, le burlesque.
Ouais.
Ouais, voilà. Et puis ensuite.
Vos références, pardon ? C'est Monty
Python, c'est la référence absolue, parce que c'est eux qui ont trouvé, je trouve, le créneau qui vieillit le mieux. C'est l'abstrait. Et le burlesque, un mec qui se casse la gueule, ça fera toujours rire, même dans 20 ans. Et ça faisait rire déjà il y a 60 ans. Et puis l'absurde, qui n'est pas des vannes qui ne sont pas connotées de l'actualité. Puisque ça date très vite. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve, moi personnellement, que H vieillit quand même pas mal. Parce qu'il y a pas mal de références à cette époque-là. Je pense qu'on était à ce moment-là l'humour pop culture. C'est-à-dire que on chopait l'air du temps et on rebondissait sur l'air du temps.
Ce qui est une qualité, mais, qui vieillit mal.
Qui vieillit extrêmement mal.
C'est
quoi.
Daté, ouais, maintenant.
En 2003-2004, vous écoutiez l'or.
En 2008, les gens se croisaient dans les airs.
Ah, putain,
en volant de coléoptères, supersoniques, mais silencieux. En 2008,
j'ai l'impression que sur les musiques, vous attachez d'abord au texte. Non, vous aimez,
ouais,
ce que, vous aimez les histoires racontées par,
Oui, c'est vrai.
Par les chanteurs et les chanteuses.
Ouais, puis là.
Non, mais ouais, et puis bon bah ouais, Philippe Catherine. Bon après, ça, en fait, c'est 2004.
Ouais.
Mais bah c'est le justement le burlesque qui habille la mélancolie.
C'est vrai, non, c'est vrai.
Ouais, il y a quelque chose que je trouve très très beau, quoi. Et puis là. Voilà. Et puis je trouve qu'il est toujours dans une recherche d'album en album. Là, son dernier, c'est complètement l'inverse. Là, il y avait beaucoup de.
Qui t'apprend des risques, justement.
Ah ouais, ouais. Et là, c'est au contraire très minimum avec. Même dans les textes, c'est différent. Il tente quelque chose de plus poétique et directement, je veux dire
le retour de la vengeance de Luxor.
Non, pas du tout.
Vu
au contraire, c'est
le succès. Il n'a pas pris le.
Et puis avec créneau. Avec du silence, avec je sais pas, il y a quelque chose qui. Enfin, je trouve, je l'adore.
Touchant.
Et il est génial d'ailleurs dans.
La tour de contrôle. Ouais. Ce mec, c'est un acteur dément, extrêmement charismatique. Et il a un charme bizarre. Hein.
On ne sait jamais d'ailleurs quand
il est tout le temps en train de charmer tout le monde.
On ne sait pas quand il joue.
C'est ça que j'adore.
On ne sait pas quand il joue, quand il joue pas. Par rapport à son comportement.
Mais je pense qu'il ne joue jamais. Il est ça.
Il est, ouais.
Il est ça. Et je suis sous son charme. Il y a un truc hypnotique. Hein. Faut faire gaffe. Non, mais je préviens les gens. Faut pas lui serrer la main, parce que t'es bloqué.
Même quand il fait des reprises, il y a son album, le double CD, sont que des reprises de standards de tubes. On a l'impression que ce sont des chansons nouvelles, tellement il a de poésie et de talent pour transfigurer les choses.
Il y a un truc qui est assez spécial chez lui, c'est que au premier abord, on se dit « Ah, le gogol, c'est nul
!»
Et au fur et à mesure, c'est lui qui nous nique, en fait. C'est-à-dire qu'il s'est passé un truc avec Jimmy Fallon.
Oui.
Je sais pas si vous avez suivi ça, c'est un late show américain.
Pour Moustache.
Où le mec passait des extraits d'albums improbables qui existent dans le monde avec des têtes ridicules, des covers bidons et tout ça. Et il met la tête de Philippe Catherine et la moustache, la chanson Moustache. Et tout le monde mord de rire dans le public. Ah, c'est un gars, qu'est-ce que c'est nul. Et il l'a invité en plateau et il a retourné le truc en fait. C'est-à-dire que soudain, c'est devenu cool. Il a cette force d'avoir l'air, au premier abord, totalement ringard. Et en fait, il est hyper cool. C'est la deuxième couche, Philippe Catherine.
Revenons à vous, Laure, justement, et cette année 2003-2004.
2003-2004, il y a deux événements qui sont associés aux frères Podalydès. Parce qu'on vous retrouve à la Comédie Française dans Le Menteur. C'est Denis qui met en scène.
Ah non.
Non, qui joue, pardon,
non,
qui distribue.
Joue,
c'est une mise en scène de Jean-Louis Benoît, pardon.
Jean-Louis Benoît.
Et on vous retrouve ensuite, et on vous retrouve dans des lectures, là, c'est pire. C'est lundi matin. Et on vous retrouve dans le film du frère Bruno.
Oui.
C'était Banc Public ?
Banc Public, ouais, exactement. Ouais,
comment s'est passée la collaboration entre les deux ? Comment vous vous retrouvez à faire une année Podalydès, là ?
Copinage.
Mais non.
Non. Eh bien oui. Écoutez, j'ai rencontré l'un puis j'ai rencontré l'autre. Non mais voilà. Non, le spectacle, bon, pour moi c'est pas. Enfin, j'ai adoré rencontrer Denis. Voilà. Après, bon, c'était pas particulièrement.
C'était.
Ah non
moi,
non. Et ouais, après, moi, non
c'était
non. Justement,
à la Comédie Française quand même.
Oui oui.
Non, c'est pas plus que ça.
Non, le lieu. Ouais, mais c'était pas
d'accord.
Trop mon truc
d'accord.
En fait. Ce spectacle, mais bon, voilà. Après, mais c'est voilà, j'ai aimé les rencontres humaines et notamment avec Denis. Voilà, c'était super. Et du coup, quand son frère a écrit Banc Public, il lui a dit ah mais vois en essai cette fille et tout machin. Voilà, et donc j'ai été prise pour Opportune, qui était parce qu'à l'époque je faisais beaucoup de rôles cul-de-jatte. J'étais toujours derrière un bureau. Sans jambes,
femme
donc
tronc.
Voilà. Et là, j'étais une caissière. Enfin, on s'est bien marré. C'était génial cette partie dans le magasin de bricolage.
Revenons à Rouler Jeunesse. Donc, ce film avec vous, Laure Calamy, Éric Judor, Brigitte Rouen également, sans oublier les enfants, Ilan de Brabant, Louise Labeck. Il y a également Déborah Lucumouena et Marie Crémer. Et vous l'avez vu d'ailleurs ce film, Bruno Clavier. Merci de venir à ce micro.
Oui,
vous êtes donc psychanalyste et psychologue. Vous avez écrit Les fantômes de l'analyse, on va en parler, c'est chez Payot en 2017.
Et les fantômes aussi, familiaux.
Les fantômes familiaux.
Familiaux.
Alors justement,
aussi,
parlons de la famille. Comment définir le personnage d'Eric dans le film, c'est
d'abord super. Merci. C'est super, très crédible, trop, c'est inquiétant.
À la fois, c'est un enfant.
Oh là là, il aime pas comment tu commences.
C'est pour déconner.
Non, mais c'est un enfant qui reste dans les jupes de sa maman, d'un côté, ça, et qui se retrouve responsable, voire père de famille très rapidement.
C'est une mère tyrannique. C'est pas une mère intrusive et tout ça, elle est carrément tyrannique. Et puis alors, dans ce genre de personnage, ceux que je connais, ceux que j'ai reçus, en général, ils foutent rien, quoi. C'est-à-dire, ils sont à la maison. Ils bossent pas, ils sont au chômage.
Passif.
Ouais. Là, elle le fait bosser. Il bosse tout le temps et dès qu'il bosse pas, elle l'appelle et dit hey, tu viens travailler. Donc ça, c'est une forme particulière quoi de Tanguy quoi. On parlait de Tanguy.
Oui, c'est une forme de Tanguy, mais enfin c'est parce qu'elle veut de la transmission. Elle voudrait qu'il prenne la boîte de dépannage.
Allez-y. Je dirais que il la dépanne.
Aussi.
Okay. Eh ben oui, principalement, il passe son temps à dépanner sa mère, quoi. Enfin, c'est-à-dire que, en général, dans ces cas-là,
c'est pas une mère surprotectrice qui veut le bien de son enfant.
Non, pas surprotectrice. Là, elle l'utilise, et c'est ça qui est malheureux. Ce que je veux dire, c'est que souvent, quand les garçons, parce que ça arrive souvent aux garçons, restent très tard comme ça à la maison, c'est qu'il y a un intérêt pour les parents. Ça peut être le père, la mère, les deux, j'ai un peu tout vu. Mais eux, ils ont envie de partir. Il n'y a pas un enfant qui ne veut pas partir.
Et moi, je suis resté jusqu'à 27 ans, moi.
Oui, mais ça va encore. À 28, c'était fini.
À quel moment on devient adulte? Comment on peut définir la notion d'être adulte?
Adulte, moi j'ai une définition spéciale. Adulte, c'est du mot adolescence. Et adolescence, ça veut dire celui qui grandit. Donc je trouve ça important. Adulte, ça veut dire celui qui grandit. C'est donc celui qui va en avant. C'est-à-dire qu'un adulte, c'est jamais terminé, c'est toute la vie. Et l'enfant, infantiliser, c'est rester en arrière. Et du coup, un adulte, c'est quelqu'un qui continue à grandir tout le temps et qui va en avant. Et là, on voit bien que le personnage, il ne peut pas aller en avant, quoi.
Parce qu'il
ni pour le boulot d'ailleurs, ni pour les femmes, ni pour rien, quoi. Il peut pas aller en avant. Puis il a une niche de chien.
Elle lui a fait une petite niche. Là où il essaye d'aller en avant, c'est justement de sortir de ce piège ou de ce cocon familial et de tomber dans un autre peut-être piège.
Et c'est un choc.
Créer une famille.
C'est un choc. Là. Eric disait tout à l'heure qu'il y avait un choc de décès qui l'avait transformé. Là, c'est un choc. Il voit des enfants. Il devient père en fait. Il devient père et là il commence à se dire ah bah ça va pas, mais tant qu'il est pas père il bougera pas, et il va bouger parce qu'il est père. Et la scène qui est géniale, c'est celle où il casse les voitures.
Ouais.
Enfin, il dit, puis elle lui dit, mais qu'est-ce que tu casses? Il dit, bah, je casse mes voitures, puis je casse tes voitures, et puis.
Voilà. Faut préciser qu'on est dans une case.
Dans une case
de voiture, et il s'amuse.
Il s'amuse à casser, et là, il fait ce que font les enfants vers 2 ans et demi, 3 ans, c'est-à-dire.
Moi, j'aurais bien aimé être avec eux. Je pense qu'il y avoir un côté défouloir.
Mais après les prises, je continuais, moi.
C'est ça. Non, mais c'est.
C'est
jubilatoire. Puis elle est de l'autre côté comme ça.
Je vous conseille.
Et puis il le fait avec les enfants, ce qui est très beau, quoi. Ils sont tous les trois. Il dit, allez, on se casse, quoi, on casse.
Il y a une phrase clé quand même dans les rapports entre le personnage joué par Éric Judor et Brigitte Rouen, c'est lorsqu'il dit, je suis plus un gamin, mais tu me traites comme un gamin.
Eh bien oui, ben c'est ça la question. C'est que je pense qu'il n'y a pas de... Je pense vraiment les enfants, si vous regardez tous les enfants, ils veulent aller en avant, courir. C'est un régal pour eux de partir de la maison. Celui qui part pas, c'est qu'on lui dit inconsciemment, je dis pas consciemment, mais inconsciemment, on lui dit reste pour un tas de raisons. Mais reste avec nous pour... J'ai vu des fils qui tenaient leur père, comme ça, ils restaient avec papa qui était tout seul. Souvent, vous voyez dans le film, elle est toute seule, il est où son mari, là, le père, on sait même pas où il est. Enfin, je veux dire, il reste pour faire le Jules de sa mère.
Et donc le déclic, c'est de se retrouver un matin comme ça, responsable de 3 enfants.
Eh ben oui, mais comme, je sais pas, vous avez été père, je pense, moi
oui,
aussi.
Pas,
ouais. Et ça nous bouge quand
enfin,
on
moi,
est
ils
père.
Sont pas arrivés tous les 4 en même temps. Quoi.
Oui, c'est heureusement.
Ça s'est fait étape par étape.
Mais je veux dire, c'est ça qui nous transforme. On est transformé aussi quand on n'est pas père ou mère. Mais ça nous transforme beaucoup des enfants, ça fait bouger la tête, quoi.
Le sentiment que peuvent avoir certains adultes d'être, de jouer à l'adulte, c'est-à-dire d'être juste un enfant qui a vieilli et qui
une carte bleue.
Voilà, et on sait ça. Et on a le rôle d'adulte, mais on l'est pas vraiment.
Ouais, moi personnellement, je connais pas. Je sais pas ce que c'est qu'un adulte. Je connais que des enfants. Enfin, moi, quand je reçois des gens,
des enfants vieux, quoi.
Moi, je suis un enfant, puis vous tous ici, vous êtes des enfants. Enfin, je veux dire, on est des enfants améliorés ou pas améliorés, mais.
Je sors complètement secoué de l'émission. Jamais.
J'aurais pensé. Voilà, non, je pense que
est-ce que tout ça, il y a des sentiments de. Ce qui va avec la psychanalyse, des sentiments de culpabilité. C'est-à-dire, le personnage se sent coupable de ne pas aider sa maman et la
tous les enfants sont coupables de ne pas sauver leur maman, de ne pas les aider, de ne pas laisser. Et elle le joue d'ailleurs à un moment donné, elle le regarde avec un air de chien battu, il ne sait plus quoi faire, quoi, parce qu'il suffit que, maman fasse ça pour qu'on ne sait plus où se mettre. Quoi. La culpabilité, c'est vachement important.
Rouler jeunesse, le film dont nous...
Bruno, j'aime beaucoup.
Ouais, tu vois, t'étais inquiet tout à l'heure.
Passe à la maison.
C'est comme dans une soirée, quand vous dites vous êtes psy, tout le monde se panique. Se dit, oh, ouais. C'est comme si vous dites je suis policier, hop, tout le monde s'en va, il range les gens.
Voyante.
Ouais. Alors les trois en même temps, je te raconte pas, c'est ingérable.
Bah, j'ai fait une soirée avec
Bruno Clavier. Merci Bruno. Merci Bruno, à bientôt. Bruno. Tanguy Pastureau, bonjour Tanguy.
Bonjour Nagui.
C'est cool d'être revenu. Mais vous allez nous parler de foot.
Et oui, ce qui pour moi relève du défi extrême parce que je m'intéresse autant qu'Hubert Reeves à la disco, à la filmographie de Kev Adams. Et je sais quand même que chez les Bleus, il y a Griezmann. Et bah voilà, c'est tout. Hein. Donc ne me jugez pas. Pendant un mois, je vais être votre copain inadapté, Nagui. Oui.
Très bien, on en parle après les infos de midi. Laure Calamy, Éric Judor sont nos invités. C'est la bande originale avec les Lacadons Boudelis.
Bonjour à tous.
Jérémy Clavier.
Bonjour.
Tanguy Bassureau.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bonjour.
Bonjour. Et nos invités, Laure Calamy et Éric Judor.
Bonjour.
Je t'aime.
Le film sortira le 25 juillet, Rouler jeunesse, un film de Julien Guetta. Laure Calamy, vous en diriez quoi de ce film? Que c'est une enquête pour trouver la véritable mère au fur et à mesure à l'école.
Excusez-moi.
Chaque fois que je lui pose une question, elle recolle un autre bout de chewing-gum.
Et elle rote.
Vous en avez combien de chewing-gum?
C'est pour me faire saliver, parce qu'en fait,
Regardez. Regardez Jérémy Clavier.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une bonne moyenne physique. La dernière fois, c'était Guillermo. Et je me dis, putain, les gars sont quand même. C'est agréable.
Un peu de.
On a été pris pour micro-pénis quand même.
Moi, je trouve ça aussi intéressant comme analyse.
C'est une manière de voir les choses. Oui, vous parliez de ce film en disant que c'est une comédie, que c'est un drame, que c'est un road movie, c'est une enquête. Comment vous.
Oui, c'est plein de choses en même temps. C'est-à-dire, on ne sait pas si on. Où on est. Et puis.
Animation. Court-métrage. C'est plein de choses en même temps.
Non. Et puis moi, ce qui me plaît particulièrement aussi, c'est cette inversion.
Tais-toi.
Mais merde, je t'ai dit que je me sentais vaseuse. J'ai beaucoup de vase et peu d'eau. Alors, tu fais trembler le truc, ça y est, je vois plus rien. Alors, attends.
Alors, on va faire plus simple.
Comme Eric. C'est vrai qu'il doit se barrer, c'est pour ça.
Comme Eric doit partir. C'est vous qui. Parce qu'il a sa vie et c'est tout. On veut pas le garder.
Des obligations.
On veut pas le garder. Non mais Eric, juste avant de partir, ce que Eric Judor.
Il y a encore 3 minutes.
Eric Judor.
Qui êtes-vous?
Juste le copain d'Annie Morin.
Dos à Nagui. Hein,
oui, mais non, faut pas croire.
Ah d'accord.
Vous êtes salaud là.
C'est pas la voix, par contre. Pas la voix.
Vous ce que vous retiendrez.
On va rien avoir.
Vous ce que vous retiendrez de ce.
Même la question est pas terrible du coup. Ça peut pas être Nagui. Nagui pose des bonnes questions. Non.
Est-ce que vous retiendriez de ce film?
Pourquoi vous tenez l'ordinateur? Parce que c'est très bizarre cette pause.
J'ai pas le droit de te le jeter dans la tronche.
Vas-y. Il se retient parce qu'il va se casser la gueule.
Mais on est à la radio.
D'équilibre.
Personne ne peut me comprendre ce que vous dites.
Bah, si les gens s'imaginent, c'est l'avantage de la radio justement. Faire travailler l'imaginaire. Eh oui, Nagui.
Vous avez dit à tout Julien Guetta la promotion que vous feriez ou pas?
Pardon?
Vous avez expliqué à Julien Guetta comment vous feriez la promotion de ce film? Parce que là, il va être au bout du.
Là, il écoute, là. Je reçois des messages, là.
C'est pour ça qu'il doit partir.
Ouais, c'est Coluche qui m'écrit. Ouais, dis donc. Alors, c'était quoi la question?
Je sais plus.
Je pense qu'il faut que vous y alliez.
Oh, c'est méchant, ça. Hein.
Il est 2h09, après vous allez m'en vouloir.
Non, posez-moi la question, on peut encore...
M'avez fait promettre. De vous libérer à l'heure, je vous libère à l'heure.
Vas-y, la question.
Non, je voulais savoir ce que vous reteniez, vous, de ce film par votre personnage. C'est une quête de sens dans la vie de ce bonhomme qui est, on l'a dit tout à l'heure, totalement opprimé par sa maman et d'un coup, il découvre une autre vie ou la vie avec les enfants.
Moi, appris à jouer dans un autre univers, l'univers dramatique. Et c'était une expérience traumatisante pour moi.
Pourquoi traumatisante?
Ultra dur. C'est-à-dire que le métier, je l'ai toujours conçu comme de l'amusement, me marrer avec quelqu'un en duo, que ce soit avec Ramzy ou avec d'autres. J'essaye toujours de créer une sorte de petit groupe, comme dans le dernier film Problemos, une bande avec qui je me marre. Et là, c'était pas spécialement toute la dernière partie du film passe spécialement marrant et amusant, divertissant. C'est juste dur et c'était très très dur de sortir ça de moi. Il fallait que je sois très sincère.
C'est émotionnel parce que à force de dire que c'est un drame et que c'est dur, j'ai peur qu'on inquiète.
C'est comédie dramatique.
Voilà,
faut pas inquiéter.
Mais il y a beaucoup de comédie. Il y a beaucoup de comédie et il y a beaucoup d'émotions fortes aussi, mais qui ramènent aux vraies valeurs de la vie. Ça s'appelle Rouler jeunesse. Ça sort le 25 juillet et Éric Judor, lui, il sort maintenant du studio. Merci d'être.
Parce que j'ai réservé une table.
Mais non, mais je
sais qu'elle saute.
Allez-y, c'est Tanguy Pastureau qui m'a fait l'info. Tanguy, c'est formidable, j'adore ça, on est en pleine Coupe du Monde.
Oui Nagui, mais j'ai quelque chose à vous avouer. Non, je n'ai pas envie de vous secrètement depuis des mois, qu'est-ce que vous pouvez être narcissique. Non, juste, je m'en tape du foot. Voilà, je sais, j'ai tort, ça a l'air super. Samedi, j'ai croisé un de mes voisins qui m'a dit « je me suis fait les 4 matchs de la journée ». J'ai répondu « ah zut, ça va ». Il m'a dit « non mais c'était génial, j'ai pas compris, pour moi s'infliger ça, c'est l'équivalent d'un mois de tôle enfermé avec un psychopathe et une savonnette ». Alors je réalise que la France vibre, hein, tel le 06 de Jean-Vincent Placé quand un ami l'appelle, donc là, jamais. Mais moi, ça me laisse froid. Vous-même, Nagui, êtes à fond. Samedi, vous étiez à Kazan, en Russie, pour France-Australie. 48 heures plus tard, vous êtes frais, nickel, santé, la lavande. Fraîcheur Narta, tu parles, fraîcheur Nagui, oui, on a envie de vous foutre dans un placard pour parfumer les pulls. Alors que moi, si je fais un week-end en bête somme, il me faut 6 jours pour récupérer. 14 si je me suis baigné. Vous êtes un mystère. À votre mort, je veux qu'on me greffe l'ensemble de vos organes pour moi aussi m'éclater dans la vie. Alors vous n'étiez pas seul, il y avait également Nicolas Sarkozy hein, qui a posé un RTT auprès du juge pour pouvoir venir, Bruno Guillon de Fun et Manu Lévy d'Énergie. Toute la radio française était là, il manquait juste Daniel Prévost des pubs Super U et Guillaume Durand de Radio Classique. C'est la même chose, sauf que sur Radio Classique la truite n'est pas à 9,40€ le kilo et que par contre elle est de Schubert. Et vous étiez tous regroupés hein, ensemble, c'est-à-dire que s'il y avait eu un attentat ce matin, il n'y avait plus personne sur aucune antenne, sauf Patrick Cohen en DJ live sur Fun qu'on aurait appelé au dernier moment. Hein, il est resté en France parce qu'il prépare son pot de départ. Bref, Nagui, vous étiez beau samedi, les joues peintes aux couleurs de la France. On aurait dit Florian Philippot sans les bonnes joues. Résultat, galvanisé par votre présence, les Bleus ont gagné, c'est normal.
Forcément.
Quand il y a de la star en tribune, on mouille le maillot, sauf si c'est Adriana Carambeu ou Camille Lacour ou quelqu'un, on mouille tout le reste. On a vaincu l'Australie, grosse nation de foot, parce que je crois qu'en 2004, deux enfants y ont joué dans la banlieue de Canberra. Donc là, je me dis, Tanguy, mon amour, intéresse-toi. C'est fini l'époque où il y avait d'un côté les intellos, de l'autre les fans de foot. Même à Inter, les gens en parlent. Certes, moins que du conflit israélo-palestinien ou de Juliette Armanet. Et alors, si Juliette Armanet va chanter à Hébron, on fait 4 jours d'émission spéciale. Mais quand même, alors je mets BFM en me disant, bon, les mecs sont spécialistes de tout. Je veux voir l'analyse du match par Christophe Barbier, contredit par la chroniqueuse Police Justice, elle-même critiquée par Gilou le caméraman, auquel le mec qui fait les vitres dit c'est n'importe quoi. Et ben là, il n'était pas content. Hein. Le Leboeuf, Dugarry, tous les anciens de 98 devenus consultants et chauves, hein, en 2018 sont des peines à jouir qui critiquent le travail des gamins.
Non, mais quand même, on a gagné samedi, donc on peut être content quand même.
Mais oui, moi je suis content parce que je sais que quand on gagne, les gens sont contents. Et quand ils sont contents, moi aussi, parce que 1, je suis un peu con. 2, le bonheur c'est contagieux. Vous mettez Alain Juppé, Eddy Depréteau et Isabelle Huppert dans une fan zone avec 300 supporters des Bleus. 4 minutes plus tard, ils font la hola. Et l'inverse est valable. Vous placez Patrick Sébastien dans une église mormone au moment de la messe, je suis pas certain qu'il cherche du regard et le dit Gossoin pour faire la chenille. Parce qu'on s'imprègne de l'ambiance. Un discours d'Hitler en 39, si vous n'aviez pas la rage contre les juifs, vous n'étiez pas dedans. Hein, du coup, les gens se motivaient, ils se disaient « je déteste Einstein, E égale MC au carré, j'y comprends rien, d'autant qu'il n'y a pas la théorie de la relativité pour les nuls, puisque la collection n'existera que dans 60 ans, et paf, ils devenaient antisémites. » Donc un mondial, ça agit comme un antidépresseur. À chaque victoire, les gens sourient un peu plus. Et c'est là que c'est important qu'il y ait un remboursement des soins dentaires. Parce que sinon, c'est pas génial à voir. Hein, parfois, on a envie de dire à Deschamps, pardon, mais j'aime autant quand tu fais la tête. Donc si tu peux dire à Griezmann de jouer avec les mains sur le prochain match, pour nous, c'est OK. Mais en 2018, tout le monde aime le foot. Mélenchon va au Vélodrome à Marseille. Alors qu'avant, il disait détester ce sport. Mais comme il veut la mairie, il s'adapte. Hein, s'il voulait s'installer à Rennes, Il jouerait au Diabolo décalqué à la 8-6 avec des peines cachées en pantacourt. L'écrivain Jean-Paul Enthoven déclare un grand match m'excite comme un rendez-vous galant. Hein, c'est le seul qui dîne aux chandelles face à la télé et à la fin fait l'amour à l'écran via la prise HDMI ou le port USB les soirs où il a un peu froid. Bernard Pivot, l'homme capable d'écrire Ornithorynque correctement les yeux fermés et sans stylo, adore lui aussi le foot, ainsi que Raphaël Glucksmann et Finkielkraut. Le foot, c'est notre dernier point commun, le seul moment où on peut tous s'aimer. Parce qu'à la fin d'un match victorieux, quand on a bu trop de rosé, eh ben on a envie de repeupler la France avec la première personne qui passe, y compris son cousin ou son chat. Hein, pour le distinguer, le chat, c'est celui qui arrive à sauter en haut de l'armoire pour échapper à son sort, tandis que le cousin hurle « Non !» Et moi, pendant que vous êtes tous aussi euphoriques qu'Anne Hidalgo fin juillet, quand elle voit plein de vélos dans Paris, ensuite elle réalise que c'est juste l'arrivée du Tour de France, eh bien, voilà, je me sens seul. Je me sens seul. Alors oui, je vais me farcir du foot pendant un mois. Voilà. Mais si ça rend heureux tous les autres, je me dis qu'un mois, c'est rien du tout.
Très bien. Merci, Tony Bassureau. La bande originale. Sur France Inter. Roulez jeunesse, est-ce que Laure, vous avez réfléchi maintenant à ce que vous apporte ce film qui sortira le 25 juillet et de la qualification qui a été faite tout à l'heure par Eric de dire que c'était une comédie dramatique?
Ah oui, oui, mais c'est complètement ça, oui, oui.
Et puis, mais en fait, ouais, toutes les comédies partent d'une situation dramatique.
Oui, de toute façon, la bonne comédie, en fait, c'est pas toujours drôle à faire, en fait. Ça peut être des situations atroces à jouer, c'est simplement le regard. Bon, je sais pas, quelqu'un qui tombe, il se fait mal. Bon.
À la base, non, voilà, mais... c'est un drame pour lui, mais nous,
voilà,
on rit.
Mais nous, on rit. Donc, voilà, ouais, il y a quelque chose comme ça. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi dans le film, c'est les personnages féminins sont un petit peu comme des... Moi, des fois, je pensais un peu à Lino Ventura, quoi.
C'est-à-dire
ouais. Non, mais parce qu'ils sont assez... ils le prennent au col comme ça. C'est assez dur, quoi.
C'est vrai.
Enfin, il a un truc où il est rabroué tout le temps. Ils sont violés
la secrétaire, Lou.
Voilà, la nana avec
qui il a une
liaison. Voilà, Déborah, qui est super. Et voilà, il y a toujours cette relation. Elle se défoule sur lui.
Enfin, oui, parce qu'il paraît lâche, maintenant qu'il n'est plus là, on peut le dire. Il paraît totalement lâche par rapport aux femmes, voire à la vie en général, quoi. Il est...
Complètement, il se débine tout le temps.
Jamais.
Donc, et elle, c'est pour ça. Moi, mon personnage, c'est pour ça aussi qu'il y a quelque chose qui peut paraître dur à des moments, mais parce qu'elle est obligée de le gérer aussi par rapport aux enfants. Et elle
est responsable.
Aussi, voilà, elle est responsable. Et puis, elle a aussi ce truc comme des tas de gens qui travaillent, les médecins, chirurgiens, aux urgences ou des choses comme ça, où d'un coup, il faut aussi se blinder par rapport à... Parce que sinon, on s'identifie tout le temps.
Et pourtant, oui, alors si vous parlez de l'insensibilité...
C'est pas de l'insensibilité. C'est
l'habitude de la situation dramatique.
Non, mais c'est de la mettre à distance parfois, et en même temps, évidemment,
que aussi.
Bah bien sûr. Non, mais on peut pas être froid et indifférent. Mais en tout cas, savoir mettre un moment.
Ce qui est bien, en tout cas, c'est que cette lâcheté du personnage joué par Éric Judor va justement se faire comment dirais-je balloter, basculer par par la vie, par l'émotion. Et c'est ça qui est drôle d'ailleurs. La comédie vient à la fois lui de sa lâcheté. Et à la fois des situations extrêmement concrètes, voire vitales, face auxquelles il va être affronté.
Ouais, confronté, ouais.
Ça s'appelle Rouler Jeunesse, c'est signé Julien Guetta. Restons avec la lâcheté, puisque voici Daniel Morin. Ah ouais.
Quelle ordure.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Hein?
J'ai rien dit.
Laurent Wauquiez n'est pas un homme comme les autres, Nagui.
Ça.
Non. Lolo, faut pas le contrarier. La preuve hier avec sa réaction suite à l'interview de la numéro 2 du parti, les Républicains, Virginie Calmels. Sa vice-présidente qu'il critique, il a pas aimé. Réaction, décision, sanction. Alors comme ça, on me critique dans la presse?
Oui, bon ben j'ai le droit de m'exprimer, non?
Non. C'est moi qui décide.
Ah, ben ça, c'est un vrai chef. Eh oui, le gars ouvert à l'écoute, mais pas trop non plus. Faut marquer son territoire, et ce, dans toutes les situations. Ah ben désolé, monsieur Wauquiez, votre voiture est pas prête, on a eu du retard dans livraison des pneus. Monsieur Wauquiez.
On avait dit aujourd'hui pour la voiture.
Ben, je sais, monsieur Wauquiez, mais voilà, alors pour les pneus, alors j'ai eu du problème à la livraison. J'ai des gros problèmes, hein. Je les attendais et puis voilà, ils sont toujours pas arrivés. Comme le coup de feu qui arrive toujours pas là sur mon texte. Là,
Il faut recharger. Hein.
Faut respecter les délais. C'est de la bonne gestion, mais ça fout un peu les chocottes.
Chérie, tu prends les biscottes dans le placard. J'ai pas eu le temps d'aller chercher le pain. Chérie.
Tu sais très bien que je déteste les biscottes.
Oui, bah pour une fois, hein, tu vas faire un effort.
Les biscottes, c'est bon pour les communistes.
Moralité, vous êtes prévenus les adhérents, faut pas faire chier Lolo. Ah bah fallait pas voter pour lui non plus. Bon allez, on change de sujet, aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres les amis, vous le savez. Non, aujourd'hui les patriotes, les vrais, ont la larme à l'œil et le cœur serré. Ils pensent avec émotion au fameux appel du 18 juin 40 qui appela les Français à la résistance. Un message plein de sobriété, d'humilité, qui tranche avec l'odieuse frivolité d'aujourd'hui. Ah, ça c'était de la radio. La gravité du ton faisait qu'on écoutait le contenu.
Ici le ministère des Transports. Ici le ministère des Transports. Pour les candidats qui passent ce matin l'épreuve de philosophie et qui doivent prendre le train, le message est clair. Vous l'avez dans l'os. Je répète, vous l'avez dans l'os. Pas de chichi, l'info brute sans faux espoir. Sinon, à part ça, revenons à l'info, la vraie, la Coupe du Monde de foot, merde. Finalement, l'équipe de France n'est pas si mal démerdée comparée à d'autres. Hier, coup de tonnerre, l'Allemagne a été battue par le Mexique. Un but à zéro.
Ici Mexico, les chicanos parlent aux Bosch. Les chicanos parlent aux Bosch. Le message est clair. Le guacamole a noyé la saucisse. Je répète, le guacamole a noyé la saucisse. Hi-ha. Je répète, hi-ha.
Je vous rappelle que les joueurs mexicains étaient dans le collimateur pour avoir festoyé dans un jacuzzi avec 30 prostituées la veille de leur départ pour Moscou.
Comme quoi, ça marche.
D'après mes infos, Didier Deschamps a déjà réagi. Un avion rempli d'assistantes a pris la direction de la Russie pour motiver les joueurs avant le match de jeudi contre le Pérou. Un avion affrété par la fameuse compagnie Jackie et Michel. À demain.
Merci.
Avec Nagui.
C'est vrai que plus personne n'a reparlé de ce scandale après la victoire des Mexicains.
Ah
plus
non.
Personne.
Comme quoi ?
Plus personne.
Vous avez encore du jus, hein ?
Laure, vous êtes donc le au médiateur. Cinéma le 25 juillet pour ce film Roulé Jeunesse. Et Laure Calamy sera également à l'affiche de Mademoiselle de Jonquière.
Tout à fait.
Ce sera le 12 septembre cette fois-ci, aux côtés d'Edouard Baird et Cécile de France. Quel est votre personnage ?
Je suis l'amie de Cécile de France, c'est son nom, elle n'a pas de prénom, c'est l'amie.
C'est juste l'amie.
Voilà.
Et c'est voilà, un film d'Emmanuel Mouret que voilà. Vous qualifieriez de...
Qui se passe au XVIIIe siècle.
Ouais, en costume.
En costume, ouais. C'est
agréable, ça. On ne se rend pas compte quand...
Voilà,
quand
moi c'est mon année costume, c'est mon année de la ganache aussi, parce que j'ai vraiment des expériences capillaires incroyables, et du costume, voilà.
Mais ça aide à jouer tout de suite dans un costume, on est le personnage en mettant la cape, le chapeau, que sais-je.
Oui, bien sûr, ouais. Ça donne une tenue, le corset forcément... Voilà,
on se tient pas de la même manière.
Ah non, on ne peut pas être avachi. On peut ne pas respirer du tout.
Ouais,
non, mais voilà.
Et ça fait vraiment mal.
Non, là, c'est quand ça même va. Fait pour qu'on puisse. Mais oui, mais voilà.
Et ouais, encore c'est... un film d'amour, Emmanuel Mouret. On imagine qu'il y a la matière amoureuse est forcément centrale.
Ah oui,
elle est
très
forcément.
Présente. Oui, ouais. Voilà. Moi, j'assiste, à tout ça. J'essaie de conseiller.
Entre Cécile de France et Edouard Baird.
Et Edouard Baird, voilà. Ouais.
Le 17 octobre, ensuite, le mois suivant, vous donnerez la réplique à Romain Duris.
Oui,
dans Nos batailles.
Ouais. Un film formidable, qui était donc à la semaine de la critique à Cannes.
Là, c'est l'inverse, c'est un père démissionnaire plutôt qu'un père qui... l'inverse de Roulé Jeunesse, je veux dire. Non ?
Ah non, parce que...
Ah, pardon.
Il y a quelque chose en commun, c'est que la mère va partir, disparaître.
D'accord.
Il
s'en va.
Seul.
Et donc, père célibataire, il se retrouve à s'occuper seul de ses enfants, et au contraire.
Non, mais il n'était pas très présent avant, en tout cas. Et puis là, d'un coup, il est responsabilisé. Non plus. Très
bien,
sur le pitch que j'avais lu.
Oui.
C'est peut-être un autre film, Nagui.
Non.
Non, mais il va s'occuper de l'éducation et de la famille.
Oui, voilà.
D'accord. Ouais. Et vous ?
Oui.
Vous faites.
Alors, moi, parce que ça se passe dans une usine, quelque chose qui pourrait être. Qui ressemble à Amazon, on va dire. Et voilà. Et donc, moi, je suis sa collègue de travail, syndicaliste. Voilà. Mais après, c'est. Disons que ça va être les effets de travailler dans ce genre d'entreprise et de toute la violence qu'il y a dedans. Mais on va pas me voir en train de faire la syndicaliste, etc.
D'accord.
L'action, c'est plus les répercussions sur leur vie
professionnel.
Ouais, et intime, personnel.
Il y a
quelque
avoir.
Chose qui se diffuse comme ça et qui est, et la violence transparaît autrement et c'est enfin c'est très très réussi.
N'arrêtez pas parce que le 12 décembre il y en a un par mois. Hein. Vous serez dans le dernier vide-grenier de Claire Darling.
Ah oui.
Genre vous aviez oublié. Non mais genre.
Non mais d'un coup je savais.
Avec Catherine Deneuve.
Je savais pas qu'il y avait la date 12. Oui, ouais, complètement. Ah bah ouais.
Et là quel est votre personnage?
Là, je suis l'amie d'enfance de sa fille.
Toujours pas de nom, juste l'amie.
Elle joue des amis.
Si, elle a un prénom, mais d'un coup, je ne sais plus.
On verra le voir.
C'est affreux.
Avec tous les films, t'imagines.
Donc, bon. De Chiara Mastroianni qui joue voilà, sa fille. Et donc, voilà, je suis son amie d'enfance qui va ramener.
Évidemment, la troisième saison de 10%
ouais.
arrive. Ouais. On n'a pas encore de date de diffusion.
Non, c'est la rentrée en gros. Bon, pour l'instant, on ne sait pas exactement quand.
Et le théâtre dans tout ça, parce que tout à l'heure, il y a eu beaucoup de vannes autour des Molières et de Jean-Baptiste Poquelin. Mais est-ce que. Les planches vous appellent à nouveau à la rentrée?
Ah bah non, là j'aurais pas le temps.
Non, janvier? Non plus, il y a rien. Plus.
Ah si, il y aura la tournée de bien sûr du Marivaux, du jeu de l'amour et du hasard.
D'accord.
Voilà, à partir de du 20 février jusqu'à début mai.
En tournée.
Voilà. Mais là, je n'aurai pas de création, je n'aurai pas le temps.
Et de quoi avez-vous envie, alors, dans votre
de vacances.
Métier
ouais,
dans le spectre, dans le spectre de tout ce que vous faites. Est-ce que ce sont des rencontres, des metteurs en scène, que ce soit au théâtre ou des réalisateurs au cinéma, qui vous
C'est ce qui se passe. Alors, je suis comblée, hein, franchement. Ouais, non, je suis très, très heureuse. Voilà, après,
est-ce que les rôles que l'on vous propose correspondent à vos attentes ou au contraire?
Ah ouais, là en plus il y a des choses très excitantes. Par exemple, il y a un court métrage de Cécile Ducrot qui avait eu le César à l'époque pour le court métrage. Et donc là on va faire le long. Donc je jouerai cette prostituée.
Tu dois dire ça d'être au projet.
Ouais.
À l'initiation du projet avec le court métrage et de voir le laisser se transformer ensuite.
Voilà. Ah ouais, ça c'est. Bah ouais.
Est-ce qu'il y a des rôles que l'on ne vous propose pas parce que on vous imagine pas là-dedans et ça vous ennuie?
On vous trouve mauvaise.
qu'on se dise que vous pouvez pas être
un grand-père,
je sais pas, ou un voyou.
Bah, sans doute, hein, mais après je ne le sais pas. C'est tant mieux.
Non, mais sincèrement, quand on vous voit sur scène, quand moi je vous ai vu dans le jeu de l'amour et du hasard, vous êtes vraiment exceptionnel. C'est-à-dire que non,
vous êtes capable de tout jouer.
Non, mais vraiment. Bah,
exceptionnel, pas mal.
Bah si, si, parce que c'est vrai qu'on vous avait vu dans 10% dans ce rôle qui est très bien aussi, mais je trouve qu'au théâtre, tout d'un coup, vous donnez vous donnez l'étendue de quelque chose parce que le rôle est plus complexe que ça, parce que vous jouez sur plein de tonalités et je trouve que c'est un très beau spectacle pour vous donner à connaître et maintenant je pense que c'est fait et que voilà, ça change tout, ça change tout.
Bah ouais. Merci.
Roulez Jeunesse sortira le 25 juillet prochain avec Laure Calamy, notre invité, Éric Judor, qui était notre invité.
Ouais,
Brigitte Durand, qui sera notre invité. tout ce beau monde sous la direction de Julien Guetta. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Mais bien entendu, et désolé pour Laure Calamy, qui non seulement a subi Éric Vincent Judor sur le film, mais s'apprête, on l'a vu et entendu surtout ce matin, à le subir en promo jusqu'au 25 juillet. Courage, Laure. On est avec vous. Désolé pour les frères Podalides, les Césars, les Molières, la Comédie Française. On a entendu que Laure Calamy en avait un peu rien à foutre. Et encore, si vous saviez ce qu'elle nous a dit à la pause sur DiCaprio, Scorsese, les Oscars, Macron, le Pape, les bébés animaux et sur le dernier Jackie et Michel, Laure, vous êtes vraiment un monstre. Et désolé pour toute l'équipe de Roulez Jeunesse qui a tout donné pour ce film et dont le boulot a été tout bonnement saccagé, salopé, humilié par Éric Judor, ce salaud qui n'est même pas resté jusqu'à la fin de l'émission. En même temps, on s'en fout, le film sort le 25 juillet.
Demain, nous recevons Tahar-Rahim. Donc, si j'ai bien compris, Julien Guetta y est aussi pour quelque chose dans ce film.
Le scénario,
le joueur, voilà. Et en live, il y aura Clara Luciani.
Ce n'est pas Paris, ce n'est pas Londres, ce n'est pas Berlin, ni même Hong Kong.
Soit l'abbé, la grenade. Après c'est par cœur.
Mais revenez demain. Revenez demain.
Alors revenez demain, elle sera là. Merci Laure, portez-vous bien.
Merci
d'être resté jusqu'au bout.
À suivre les carnets de campagne de Philippe Bertrand.